Et pour la seconde table ronde de l'après-midi intitulée Les jeux narratifs d'aujourd'hui, laboratoire de nos peurs, j'appelle Julie Le Baron, rédactrice en chef de Canard PC, Queen Apple, streameuse et animatrice de Jour de Play, et Quentin de Beauclair, directeur artistique et fondateur de l'atelier QBD et développeur notamment de Décarnation, auquel vous pouvez jouer sur le festival dans la bibliothèque, bien sûr. Merci.
Bien. Donc, rebonjour Quentin, rebonjour Julie et bonjour. Rebonjour Queen Apple.
Salut.
Donc merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer le traitement de la peur dans les jeux narratifs, donc souvent indépendants et ne demandant pas de compétences ludiques particulières. Mais avant de rentrer dans le détail des échanges, j'aimerais faire un point introductif, que j'espère pas trop long et avec pas trop de noms, même s'il y en aura quelques-uns, sur les liens et les raisons qui nous poussent aujourd'hui à lier jeux narratifs et angoisse contemporaine. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là ? Parce qu'après tout, le désir de fiction dans le jeu vidéo ne date pas d'aujourd'hui, évidemment. On le trouvait déjà dans les premiers jeux d'aventure textuels, et ensuite dans le jeu vidéo des années 80, dont certains empruntaient beaucoup au code du cinéma et de la littérature, notamment d'épouvante. Ensuite, évidemment, sous une forme plus enjouée dans les années 90, à travers ce que l'on appelle aujourd'hui, en général, l'âge d'or du point and click. Mais je pense qu'il y a eu une forme d'accélération de la prise de pouvoir de la fiction dans le jeu vidéo au cours des années 2010, si on peut dire, avec notamment le développement de l'Apple Arcade, évidemment de la scène indépendante, des études en narratologie et l'explosion de la mise en ligne du nombre de jeux sur Steam chaque année, qui favorise évidemment le traitement l'essor des jeux indépendants. Donc, roman visuel, point and click, walking simulator, aventure hybride, film interactif, on les appelle comme on veut, mais aujourd'hui ils nourrissent tous plus ou moins la nébuleuse des jeux narratifs, qui contaminent d'ailleurs des genres qui ont longtemps été réputés hermétiques aux histoires. Je pense notamment au roguelike, on a cité Returnal dans la première table ronde, on pourrait parler d'Hades dans un registre plus indé, ou par exemple, un jeu de cartes, notamment Inscription. Donc au-delà des étiquettes, se développe donc toute une profusion de thèmes et d'avatars plus ou moins connectés au quotidien des joueurs et des joueuses. On peut évoquer des sujets parfois modernes, comme le harcèlement à l'école dans le dernier Silent Hill, le Short Message, le mal-être des adolescents japonaises dans beaucoup de romans visuels, et les identités de genre dans The Cosmic Wheel Sisterhood, la difficulté de faire famille et d'accepter le deuil dans Edith Finch, que tout le monde connaît, j'imagine. On pourrait également citer la parentalité et la peur de la parentalité, en tout cas les affres de la parentalité dans Stasis, la crise migratoire dans Enterre-moi mon amour, l'écrasement de la sphère privée par un régime autoritaire dans le jeu taïwanais Detention, ou également l'inégalité dans le couple et les stigmates de la misogynie dans le très beau et un peu méconnu South of the Circle. Bref, on pourrait multiplier les exemples et je vais m'arrêter là, évidemment. Mais je pense qu'il est important de prendre en considération tous ces genres et de voir à quel point ils entrent en collision ou en tout cas en dialogue avec des problématiques beaucoup plus contemporaines dans le rapport aux idées et le rapport aux thèmes évoqués dans les jeux, à rebours en gros de l'idée largement répandue selon laquelle le jeu vidéo serait d'abord une bulle de divertissement, un plaisir un petit peu immédiat et en marge du réel finalement. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que la question ne paraît pas incongrue, de se demander si on a parfois, ou si vous avez parfois le sentiment de mieux comprendre, en tout cas un peu mieux, le monde qui vous entoure grâce aux jeux narratifs, et est-ce que l'un d'eux a déjà résonné en vous d'une façon particulière ?
Mieux comprendre le monde, je suis pas sûre, mais en revanche, la deuxième partie de ta question, rentrer en résonance, c'est amusant parce que j'ai refait le début de Decarnation hier. On dit Decarnation ou Décarnation ? Il faut qu'on.
Eh ben, on dit comme on veut. Moi, je dis Décarnation, okay. Mais Decarnation.
Alors, je vais dire Decarnation.
Decarnation en espagnol.
Hier. Et le fait que. Je vais vous spoiler un peu le début du jeu, mais cela dit, il est en expo là-haut, donc il fallait le faire avant. Le fait de voir cette femme se faire. Ce mec qui tripote sur sa statue au tout début. Ouais, c'est un truc qu'en tant que femme, je pense, on est nombreuses à avoir vécu cette entrée dans la sphère privée. Enfin,
pour préciser, c'est un sculpteur qui donc pose, enfin qui fait poser le personnage principal. Donc elle est nue et confrontée à un regard très libidineux et des remarques assez
Oui, déjà à la base, ça se passe pas très bien. Et ensuite, une fois que la statue est exposée, et elle voit cet homme limite se frotter sur sa statue, vraiment la toucher comme si c'était comme s'il avait une relation sexuelle avec. Et c'est très perturbant. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes du coup qui ont déjà vécu ça, ne serait-ce que par le regard ou ce genre de choses, par le comportement masculin dans l'espace public par rapport à nous. Et ouais, du coup, pour rentrer en résonance, il y a de nombreux jeux qui sont rentrés en résonance avec moi, en tout cas avec mon histoire, et celui-ci en fait partie du coup par cette scène-là qui m'a vraiment très fort.
Julie, tu as des exemples de jeux qui te viennent en tête ?
Oui, tout à fait. Bah, en fait, pour répondre à la première partie de la question sur est-ce que j'ai déjà eu l'impression de mieux comprendre le monde par
un peu,
oui, un petit peu, oui. En tout cas, par un jeu narratif horrifique, bah oui, honnêtement, plein de fois, parce que beaucoup de jeux narratifs horrifiques auxquels j'ai joué récemment partaient vraiment d'une crainte sociétale bien précise, ouais. Parfois très localisée. En fait, je pense à, par exemple, If on a Winter's Night for Travelers, ce qui n'est pas un jeu horrifique à jumpscare à proprement parler, mais qui a des éléments surnaturels. Et en gros, c'est un jeu qui se divise en plusieurs parties. On va avoir une partie sur un couple gay qui se retrouve dans une chambre d'hôtel à Turin, mais en pleine période de montée du fascisme. Ensuite, on va suivre une aristocrate anglaise qui devient dépressive à la suite de la mort de son mari. Puis, tout un pendant sur un docteur noir qui se tourne vers les sciences occultes pour se venger du harcèlement de ses collègues, en gros. Et après en avoir discuté un peu avec la développeuse, enfin une des développeuses, Laura Hunt, il y avait un vrai désir de sa part, en tout cas, d'ancrer son récit dans une réalité historique, de parler en fait des bouleversements propres à la période d'entre-deux-guerres. Et mine de rien, en fait, rien que ce jeu, enfin, par ce qu'il raconte, par ce qu'il décrit de cette période-là, donne aussi envie de s'intéresser vraiment à toute la période historique qui y est accolée. Et c'est un jeu qui, oui, honnêtement, enfin, en tout cas, m'a donné envie de mieux comprendre le monde dans lequel on était. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a vraiment plein, quoi.
Très bien. Et sur cette idée justement de mise en relation entre la fiction et le quotidien des joueurs et des joueuses, Quentin, en amont de la sortie de Decarnation, tu as déclaré dans une interview, je cite, que tu voulais voir comment des expériences de vie réelle peuvent avoir une dimension horrifique et comment notre esprit remodèle nos expériences négatives pour le pire, mais parfois aussi pour le meilleur. Qu'est-ce que tu entendais par là exactement ?
Ah, je dois maintenant m'expliquer de mes citations passées. Alors donc, ouais, ça va être peut-être ma définition de l'horreur, la façon dont j'utilise ce genre, les différents procédés qu'on peut trouver dans le registre de l'horreur. Plutôt dans les tables rondes, on a parlé de pas mal de jeux dans lesquels le parti pris nous invite à considérer que les zombies existent ou que, effectivement, si on dessine un pentacle sur le sol et on dit les bonnes formules, un démon va apparaître. Avec Decarnation, le parti pris, c'était plutôt d'être dans quelque chose du réel. Ça veut dire que, de la même façon qu'on va regarder peut-être un film de la Nouvelle Vague, à bout de souffle, pour en citer un au pif, et dans lequel le pacte qu'on fait, c'est, bah, en fait, voilà, on vous emmène dans le réel. Les dialogues qu'on va avoir ne vont pas forcément être particulièrement fleuris. La mise en scène ne va pas forcément chercher à vous subjuguer, à vous choquer. Et grâce à ça, en fait, il va y avoir peut-être beaucoup de confiance, en fait, qui va venir de la spectatrice, du spectateur, et ça va permettre de mieux faire transiter certaines idées dans l'œuvre. Dans Décarnation, c'était un petit peu l'idée, c'était de se dire je vous emmène dans le réel, donc dans le réel de Paris 1989. Beaucoup du jeu se passe plutôt, on va dire, dans plutôt dans l'est et dans le nord de Paris, c'est-à-dire on est loin de la Tour Eiffel, on est loin des grandes avenues, et de toucher des sujets très, très réels, très concrets, très prosaïques. Ce qui fait que quand l'horreur va rentrer dans cette mécanique, elle va peut-être en être d'autant plus perturbante, d'autant plus vivace. Et idéalement, donc c'est l'intention de Décarnation, et c'était déjà un petit peu l'intention de Narcosis, mon projet précédent, d'utiliser l'horreur comme une mise en corps, une réification de sensations abstraites qu'on a toutes et tous dans la vie à un moment ou un autre, qui est un trauma, un stress, une angoisse. Et là où la littérature peut très bien en rendre compte avec les mots et avec l'abstraction qu'il y a dans les mots et dans ce qu'ils peuvent nous évoquer, le jeu vidéo ou les autres œuvres, les autres arts audiovisuels ont quelquefois plus de mal à représenter les sensations. Voilà, donc dans Décarnation, l'idée c'était d'imager en fait avec l'horreur ce qu'on peut ressentir à certains moments de notre existence.
Donc j'imagine que tu es plutôt d'accord avec Michael Hedberg tout à l'heure qui disait en substance que l'horreur n'était pas pour lui une fin mais un moyen d'exprimer et de raconter quelque chose. Pourquoi l'horreur d'après toi est un terrain aussi fertile pour raconter des histoires? Qu'est-ce que tu viens y chercher particulièrement?
Alors personnellement, je sais pas d'où ça me vient. Quand j'avais 7 ans, je dessinais des personnages trucidés sur mes cahiers. Mes parents se demandaient, à part ça, tout allait bien. Hein. J'avais des bonnes notes, j'ai des camarades de classe, des amis et tout. Je sais pas. Vraiment, c'est un truc. Faudrait peut-être qu'un jour je fasse une psychanalyse pour voir d'où vient mon goût pour l'horreur.
Mais sur ce rapport entre l'horreur et la fiction, justement, comment on peut estimer que l'horreur permet mieux que notre genre ou sous-genre de raconter quelque chose de pertinent, en fait?
Alors, je sais pas si mieux que qu'un autre genre, mais c'était aussi des points peut-être un petit peu touchés dans la table ronde précédente. Il y a quelque chose de très atavique. Il y avait la question de l'obscurité, la lumière. L'horreur va aller toucher, je pense, des éléments justement qui sont profonds, qui sont ancrés en nous, en tant qu'humains du XXIe siècle, mais aussi peut-être en tant que mammifères existants de génération en génération depuis des millions d'années. Et donc ça va aller toucher quelque chose de beaucoup plus limbique chez nous, et peut-être du coup en provoquer quelque chose de plus fort.
Je pense que par rapport à l'industrie du jeu vidéo aussi, ça a été un des moyens de raconter des histoires sérieuses, alors que au tout début c'était vraiment jeu vidéo. Et l'horreur, ça a permis de créer un setup, créer une nouvelle scène où pouvaient se dérouler des histoires un peu plus sérieuses. Et du coup, ça a joué, je pense, dans le fait que imprégner le public de l'idée que oui, le jeu vidéo, ça peut parler de trucs sérieux aussi. Regarde, oui, c'est des zombies, c'est des fantômes, tu vas taper dessus comme tu tapes sur d'autres trucs dans d'autres jeux vidéo. Mais par derrière, en fait, il va y avoir des thèmes très très sérieux, et ça a lancé cette idée que ouais, le jeu vidéo, il peut aussi faire ça, je pense.
Oui, bah, complètement. Ouais, c'est l'impression que j'ai aussi, comme s'il y avait en fait cette envie de se légitimer un petit peu, de légitimer sa pratique de développeur en racontant des récits sombres, en n'ayant pas peur de discuter de sujets vraiment pas rigolos dans l'ensemble. Guillaume Béchelier parlait de trafic d'organes tout à l'heure, mais les exemples sont légion en la matière. Mais je trouve que même au sein de l'horreur, il y a deux écoles, parce qu'il y a vraiment celle qui va reposer sur la peur et celle qui va plutôt reposer sur le dégoût. Où là, moi, j'ai plus en tête les jeux vraiment gore avec des avalanches de monstres plus dégueulasses les uns que les autres. Mais en tout cas, oui, il y a, je trouve, ce discours assez récurrent, je trouve, de la part des développeurs indés sur la narration, cette envie de parler de sujets sérieux plutôt adultes. Quoi.
Et justement, tu évoques l'idée de légitimer la pratique de jeux vidéo et donc, par extension, sa propre pratique de développeur à travers des histoires plus sérieuses ou jugées telles quelles. Depuis une quinzaine d'années, avec notamment Sébastien Janvaux et le concept de jeu expressif, puis un peu plus tard avec le concept de jeu du réel, qui sont voisins, vous pouvez peut-être nous dire si vous voyez des différences, mais qui en gros racontent l'idée d'un jeu vidéo plus connecté au quotidien des joueurs, ce que j'évoquais tout à l'heure, avec des thématiques parfois plus sérieuses, notamment un jeu qui est relié par exemple à la mort d'un enfant ou à la maladie d'un enfant. Évidemment, il n'y a aucune notion de fun qui est évidemment celle de mise en avant par la plupart d'industries et dans le discours commercial. Est-ce que vous pensez que les jeux expressifs et les jeux du réel sont assez pertinents pour regrouper cette nouvelle tendance dans l'art de raconter une histoire dite sérieuse? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont infusé dans le discours dominant depuis quelques années, notamment depuis que vous avez commencé à écrire ou à jouer?
Alors si je peux répondre en premier, je connais ces deux expressions, jeu expressif et jeu du réel. Je suis plus partisan de la première. Je trouve que l'expression jeu du réel, en fait, la notion de réel, enfin, c'est une question philosophique, ontologique, physique, enfin, scientifique. Le réel, c'est qu'est-ce que le réel, enfin bon, qu'est-ce que où le réel s'arrête, Alors que voilà, l'expression jeu expressif, à titre personnel, me parle beaucoup plus parce qu'on comprend bien cette idée d'au-delà de la performance que c'est de battre un jeu, comme il y a l'expression en anglais « beat the game », de la notion de skill et du fun pur et dur, mais d'une définition souvent un petit peu un peu infantilisante du fun, en mode ah c'est marrant, tiens voilà des petites récompenses,
un plaisir immédiat en fait, sans réflexion, chaud d'adrénaline quoi.
Voilà, c'est ça qui peut un peu flatter, voilà, des sens plus directs de fantaisie de puissance, de gratification rapide, etc. Voilà, on comprend bien dans cette expression jeu expressif qu'on essaye d'aller sur un autre terrain. Tu parlais aussi de maturité, de légitimité, et je pense qu'il y a aussi un truc comme ça. C'est pas un hasard si aujourd'hui il y a beaucoup de créateurs et créatrices de jeux vidéo qui vont sur ce registre-là, parce qu'en fait, si tu regardes, le jeu vidéo a peu ou prou une quarantaine d'années. On a commencé avec des jeux qui étaient plus de l'ordre du jouet, du toy, quelque chose d'un petit peu plus naïf, avec des plaisirs plus immédiats. Au sens large, je fais partie de cette génération qui a grandi avec ses premiers jeux, et qui maintenant peut-être veut aller à un niveau supérieur, mais aussi veut légitimer en fait le jeu vidéo comme un médium tout aussi noble que d'autres. On peut voir facilement comment le cinéma on va dire 120 ans, un truc comme ça, 130 ans, au début était vu comme un truc de fête foraine, et de décennie en décennie a réussi à devenir quelque chose de complètement noble, et aujourd'hui c'est le 7e mars, c'est le festival de Cannes, etc. Le jeu vidéo, ça fait 40 ans qu'on est là depuis Pong à peu près, un peu plus. Tu vois, je sais pas ce que vous en dites, mais on est encore sortir beaucoup les rames quoi, pour légitimer le truc.
Ah oui, oui, complètement. Ouais, j'ai encore ce sentiment de... Bah, je crois qu'on en avait parlé une fois, en fait, du fait qu'il existe, aux yeux du grand public, vraiment très clairement, plusieurs formes de cinéma, là où jeu vidéo sera toujours perçu, enfin, en tout cas par le grand public encore, comme un pur loisir et pas forcément, oui, un vecteur de réflexion ou quelque chose qui propose autre chose que tirer à tire-larigot sur des ennemis, effectivement, ouais.
D'ailleurs, dans le jeu narratif, et notamment sous-genre comme le simulateur de marche, il y a encore quelques années, et puis même aujourd'hui, chez beaucoup de gens, c'est considéré comme, entre guillemets, du faux jeu vidéo. Quoi.
Mmh. Oui, c'est ça.
L'idée de, ah ouais, bon...
Bah, les jeux narratifs dans l'ensemble, c'est vrai que c'est voilà. Souvent perçu comme des jeux où on ne joue pas réellement, et ça, ouais, ça pose tout un tas de questions sur ce qu'est réellement un jeu vidéo, mais moi, en tout cas, de mon point de vue, les jeux narratifs sont tout à fait des jeux vidéo, mais ils proposent juste des formes de gratification tout autres, quoi.
Sur cette idée justement de jeux vidéo et de légitimation et de rapport au réel, plus ou moins, je vais citer une autrice canadienne qui a scénarisé et créé plusieurs romans visuels qui s'appelle Christine Love. Beaucoup de jeux qui renvoient à la difficulté de communiquer. Et elle dit, pour moi, la chose la plus importante en tant que game designer, c'est d'essayer d'amener les gens à considérer les choses depuis d'autres perspectives que la leur. Donc c'est toute l'idée d'empathie et des leviers qui amènent à mettre en pratique cette empathie. Pourtant, je trouve qu'il y a un petit paradoxe, puisqu'il y a une ouverture d'esprit dans le propos qui est volontariste, qui est là, l'idée de se connecter aux autres. Mais dans le cadre du jeu vidéo, parfois, ça se double d'une logique d'enfermement par le gameplay. Je pense notamment au jeu « Enterre-moi mon amour », qui nous fait revivre la traversée d'une réfugiée syrienne, alors que son mari, on incarne son mari qui est resté au pays pour prendre soin de sa mère et de son grand-père, je crois. Et donc, évidemment, il y a toute une idée de danger, de péril de la route, avec une interface de téléphone portable. D'ailleurs, peut-être qu'on peut mettre le visuel en fichier en termes à mon amour, en régie, s'il vous plaît. Non, c'est décarnation, pardon. Ouais. On peut le mettre pour voir à quoi le jeu ressemble, évidemment, mais plutôt le deuxième, s'il vous plaît. Enterre-moi mon amour. Et donc, justement, le game designer disait que... Il n'avait pas voulu donner le sentiment aux joueurs de savoir ce qu'ils allaient faire et en gros de ne pas leur donner l'illusion de contrôle. Pour lui, c'était important de figurer un sentiment d'impuissance puisque c'était évidemment raccord avec l'idée du jeu. Et dans Décarnation, il y a aussi cette idée de ne pas laisser le choix finalement puisqu'il n'y a pas vraiment de choix, c'est une histoire plutôt linéaire. Pourquoi selon vous cette idée de... Est-ce que le choix ou le manque de choix enferme le joueur et donc ça permet de ressentir davantage l'empathie à vos yeux, à tes yeux, Quentin ?
Alors ouais, la question du choix, du libre arbitre dans dans le design en général et dans Décarnation en particulier, c'est un vrai sujet. Si tu veux, ça vient surtout de mon ambition première qui était donc narrative. Raconter un truc. Tu vois, c'est ce truc selon lequel, je vais prendre Roméo et Juliette. Tu vois, si tu avais un libre arbitre, tu avais un contrôle sur l'histoire, et tu pouvais faire que Roméo et ou Juliette survivaient, l'histoire serait à chier, tu vois. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin, il meurt. Et je crois qu'il y avait quelque chose comme ça aussi, tu vois, dans Décarnation. Il y a des jeux avec une narration émergente ou des jeux où tu as un certain impact sur la tournure des événements qui sont brillants, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais disons que je suis plutôt de l'école autoritariste dans la narration, c'est-à-dire que je vais essayer d'écrire la meilleure histoire avec mes moyens, je vais essayer de la mettre en scène du mieux que je puisse avec les gens avec qui je vais bosser pour faire le son, l'image, la programmation. Et on va arriver, voilà, c'est la recette du chef en fait, tu vois, c'est ma meilleure recette, voilà, tu kiffes pas après, c'est une autre question, en tout cas voilà, et si je te laisse choisir, ah ouais, mais tu vois, moi je mettrais un peu plus de sucre, ah, et puis on va mettre, c'est plus la recette.
Non, mais après il y a aussi peut-être moyen par moment de conditionner un peu, enfin donner à l'impression du joueur qu'il a une forme de libre arbitre sur certains aspects, alors qu'en fait pas tant que ça. Enfin, je pense par exemple au slasher interactif de Supermassive Games par exemple, où là on a vraiment des slasher interactifs où on peut incarner des personnages qui sont souvent des archétypes des films d'horreur. Donc il va y avoir la personne, le jock très populaire, le stoner, l'intello. Et donc nous, en tant que joueurs, on va forcément se positionner par rapport à ces personnages. On va soit vraiment se prendre d'affection pour l'un ou vraiment en détester un autre. Et le principe qui est intéressant dans ces jeux-là, c'est qu'on peut avoir un droit de vie ou de mort sur eux. Dans le sens où si on rate des QTE, ce qu'on peut faire volontairement parfois si on déteste un personnage, avoir un peu l'impression d'être un réalisateur de films d'horreur qui va choisir quel personnage il va garder à la fin. Mais finalement, en fait, il y a quand même un truchement de game design de la part de Supermassive, c'est qu'il y a des personnages qu'ils ont identifiés en premier lieu comme étant les personnages principaux et ils ne peuvent réellement mourir que lors du dernier chapitre du jeu, par exemple. On n'en a pas conscience en tant que joueur. Nous, on a vraiment le sentiment d'avoir une certaine forme de contrôle, mais justement parce que pendant un temps j'étais persuadée d'avoir ce contrôle-là, je l'acceptais, quoi. J'avais pas l'impression d'être dans un jeu dirigiste, justement.
C'est trop cool que tu aies parlé de Roméo et Juliette, parce qu'en jouant à Décarnation, je me suis dit, mais en fait, c'est une tragédie. Parce qu'on prend, et je pense que c'est le cas de beaucoup de jeux narratifs d'horreur, on prend toujours l'histoire à un moment où, de toute façon, ça va pas bien se passer. Enfin, y a des gens qui vont souffrir dans ce moment-là. Nous, notre but, et là où on va avoir cette illusion de choix, c'est comment on va arrondir les angles, comment on va peut-être faire en sorte, peut-être qu'on peut, peut-être qu'on peut pas, qu'il y ait le moins de gens possible qui souffrent, ou alors ceux qu'on n'aime pas, comme tu as dit, les coachs sportifs, hop, ils meurent en premier. Enfin, c'est cette espèce d'illusion de choix, et en même temps, c'est ce qui nous donne envie d'avancer dans cette histoire-là. Et c'est vachement intéressant de se dire, mais pourquoi les gens depuis l'Antiquité vont voir des tragédies, pourquoi nous on joue à des jeux d'horreur alors qu'on sait que c'est pas joyeux, enfin, potentiellement trafic d'organes d'enfants, ou j'ai pas tout suivi, et on y va quand même, quoi. Donc ouais, il y a un enjeu narratif et d'illusion de choix de par le médium,
alors que spontanément l'idée de choix dans le jeu vidéo est beaucoup valorisée et certains tendent à considérer quand il n'y a pas de choix, finalement qu'est-ce qu'on fait là.
Ouais, mais d'un autre côté, t'as des jeux qu'on appelle un peu des jeux sur rail, des shooters où tu vas juste entre guillemets, tirer à droite, à gauche et juste faire augmenter ton score, qui sont plus considérés comme des jeux vidéo que des jeux narratifs comme Edith Finch ou autre.
Donc... si on fait une petite parenthèse AAA pour rebondir sur la table précédente, est-ce que finalement The Last of Us Partout n'incarne pas le mieux cette idée de manque de contrôle infligé aux joueurs? Puisque c'est un jeu qui a été, au-delà de la sphère très à droite d'une certaine frange de joueurs, qui a été aussi critiqué pour le manque de choix. Certains se sont sentis vraiment pris à la gorge, on va dire, par ce qui arrive à un personnage, sans spoiler. Même si, on pourrait. Est-ce que ce n'est pas finalement le signe d'un travail, d'un bon jeu narratif d'horreur, un jeu qui nous bloque et qui crée ce sentiment de malaise auquel on ne peut pas échapper finalement?
Oui, alors c'est marrant que tu cites The Last of Us Partout, parce que finalement, il a rien fait de beaucoup plus que... Enfin, il faisait déjà les mêmes choses dans la partie 1. Il y a des choix effectués par le personnage qui peuvent paraître complètement discutables à de bien nombreuses reprises et qui finalement nous sont imposés en tant que joueurs parce qu'elles ont lieu pendant des cinématiques. Là, ce qui cristallisait, oui, toute la haine dans The Last of Us Part 2, c'était la nature... Enfin, c'était la mort d'un personnage apprécié des joueurs et la main... enfin, je veux dire, la personne en question. Enfin, mais pour le coup, ouais, The Last of Us Part 2, c'est un jeu qui est particulièrement difficile parce que c'est un jeu sur le cycle de la violence qui se reproduit et face à laquelle on est complètement impuissant. Et je le trouve particulièrement dur parce qu'on y voit un personnage qu'on a vu grandir en quelque sorte retomber dans les travers de ce qu'elle combat elle-même en fait. Donc oui, de ce point de vue-là, il est excessivement difficile.
Et tu parles des cinématiques et de ce qui arrive à un personnage connu et beaucoup apprécié, mais c'est aussi une violence qui s'exprime à travers le gameplay puisqu'on nous fait affronter... l'équivalent d'un avatar, bon voilà, sans spoiler encore une fois, mais dire qu'on est confronté à des choses que l'on ne veut pas faire, puisqu'il y a un potentiel, un attachement émotionnel à un personnage, et pourtant on nous impose de les faire. Donc cette idée en fait de manque de choix, elle paraît fondamentale, non, puisque c'est pas uniquement une affaire de cinématique pour le coup.
Oui, c'est vrai que c'est pas juste une affaire de cinématique, mais en tout cas j'ai le souvenir aussi dans la partie 1 de Last of Us d'avoir fait des choses en tant que joueuse que j'avais pas nécessairement envie de faire.
Sur cette idée de choix et de, on va dire, de mise à mal du joueur et de l'expérience, Quentin, tu, qu'est-ce que je veux dire, comment dire, dans Décarnation, il n'y a pas de choix, on l'a dit, et le personnage est en quelque sorte enfermé à l'intérieur d'elle-même, et puis à l'intérieur, après, du décor, évidemment, donc il y a tout un côté surnaturel qui entre en ligne de compte. Comment tu as construit cette idée d'enfermement, et comment tu as écrit le personnage féminin ? Sur quoi tu t'es appuyé, en fait, pour qu'il y ait une crédibilité à ce justement-là ?
Alors, c'est deux questions très différentes. La question de l'enfermement, donc ouais, dans Décarnation, il y a de l'enfermement concret, de l'enfermement abstrait. Je pense que ça, c'est une question qui m'est chère sur comment exprimer ce qu'on veut être, comment exprimer ce qu'on ressent. Tu vois, je vois bien dans ma vie personnelle, mais dans la vie des autres, comment c'est dur de dire ce qu'on ressent, comment c'est dur de choisir ce qui nous semble bon pour nous. Donc ouais, c'est des sujets qui m'importaient, que je voulais mettre en scène. Et parfois, donc, prendre ces éléments-là et les représenter de façon concrète, les représenter de façon abstraite. Il y a une grosse partie, du coup, où concrètement l'héroïne est enfermée. Et là, ouais, effectivement, c'est un vrai challenge de se dire comment on peut rendre intéressant un ultra huis clos. Parce que là, elle est toute seule dans 8 mètres carrés. Et comment on va pouvoir tenir avec ça. Tu as mentionné le mot, tu as dit surnaturel. Ouais. Alors, je ne considère pas Décarnation comme surnaturel, dans le sens où tous les éléments, on va dire, anormaux, prennent lieu soit dans un rêve, soit... dans une sorte de réification, comme je disais tout à l'heure, de quelque chose de subjectif. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un monstre, mais est-ce que littéralement, il y a un monstre ? Tu vois, on peut facilement comprendre qu'il n'y en a pas. Là, par exemple, d'être là aujourd'hui sur scène, ça me met un léger stress, par exemple, qui est assez léger parce que c'est un exercice que j'ai fait de nombreuses fois. Mais tu vois, la première fois que je suis monté sur scène avec une caméra, des lumières, un micro et puis une salle qui m'écoute... on aurait pu représenter ça facilement en un monstre. Et tout à l'heure, tu parlais de la mort d'un enfant dans des jeux. Du coup, je vais faire aussi une passerelle à ce jeu qui fait ça, qui s'appelle That Dragon Cancer, ce dragon cancer, qui aussi utilise donc cette idée du dragon comme métaphore de quelque chose de dur à vivre, qui est le cancer. Voilà, donc Décarnation, le propos voilà, de l'horreur, l'utilisation de l'horreur ici, est comme ça. C'est pour ça que, pour moi, c'est pas surnaturel. Maintenant, sur la question de l'écriture voilà, d'un personnage féminin à qui il arrive des choses sombres, en tant qu'homme blanc 6-7, effectivement, c'est une question épineuse. Dans mon existence, je ressens rarement le syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose que j'ai pu ressentir pour la première fois de ma vie en travaillant sur ce jeu, sur ce personnage. J'ai souvent douté, j'ai souvent considéré de retransformer le personnage de Gloria en un homme, en me disant comme ça, bon, on m'emmerdera pas, je suis un homme, c'est facile, je vais parler d'un homme. Et en même temps, bah, je sentais bien que Gloria était une femme et en fait, c'est une question. J'ai envie d'aller au bout de, même si vous voyez que ça m'affecte. J'ai envie d'aller au bout de mon point.
C'est intéressant. Sur cette idée de projection justement du monstre, tout à l'heure, tu disais que dans un autre cadre, peut-être un peu plus tôt dans ta vie, le public présent, dans un contexte de prise de parole, aurait pu être assimilé à un monstre. Est-ce que l'idée, justement, dans un bon jeu narratif, est-ce qu'on doit considérer que le monstre à l'écran doit forcément être une projection de quelque chose, une métaphore ? Qu'est-ce que tu en penses, Julie, par exemple ?
Alors, pas nécessairement, parce que je pense qu'un des meilleurs monstres, en tout cas, moi, un de mes monstres préférés sur Terre, c'est bizarre de dire ça, mais Pyramid Head dans Silent Hill 2, je trouve, est un excellent monstre parce que c'est pas juste un monstre, c'est pas juste un être extrêmement musculeux avec une tête de pyramide. C'est. Je me permets, il y a prescription de spoiler un petit peu, mais il représente la culpabilité d'un homme qui est. Enfin, tout son côté extrêmement sexué, et toute la culpabilité d'un homme qui a vu sa femme. Sa femme souffrir d'une maladie incurable et s'est retrouvée à avoir des désirs pour d'autres femmes. Les ennemis de Silent Hill sont intéressants parce que c'est des infirmières extrêmement sexualisées qui représentent les pensées qu'il avait à ce moment-là. Mais d'un autre côté, j'ai aussi des contre-exemples. Le Doberman de Resident Evil est super bien, mais je pense pas qu'il représente grand-chose. C'est vraiment dans sa manière de surgir à l'écran qu'il est intéressant, parce que c'était une époque où les jumpscares étaient peut-être pas aussi éculés qu'aujourd'hui. Donc pour moi, non, un bon monstre n'a pas forcément à représenter, à symboliser une forme de mal-être ou à représenter quelque chose, mais ça y ajoute une couche de lecture hyper intéressante. Et d'ailleurs, je me souviens qu'on avait parlé de Silent Hill, Quentin, tu m'avais expliqué que toi, la première fois que tu avais joué étudiant, t'avais adoré le jeu, mais sans forcément lire voir la notion, toute la symbolique qu'il y avait derrière. Et c'est ça qui est intéressant dans Silent Hill, c'est que c'est un jeu qui tient sur ses deux pattes sans les interprétations qu'on peut en faire, quoi, qui n'a pas besoin d'être chargé de symbolique pour être apprécié.
Je trouve aussi que c'est vachement mieux quand un monstre a une double lecture et quand on comprend que oui, là en fait c'est clairement une projection du personnage ou d'autre chose, de peut-être plus sociétal, etc. Et c'est marrant parce que tu as pris Silent Hill et Resident Evil comme exemple de jeu, et pour moi Resident Evil, c'est quand même, je ne veux pas avoir l'air snob du tout, mais c'est quand même plus des jeux d'action que Silent Hill.
Surtout depuis le 4. Oui, voilà.
Surtout depuis le 4. Mais cela dit, les débuts de Resident Evil sont très très puissants. Je trouve les intros, notamment le 4, à quelque chose de très puissant, puisqu'on sait qu'il y a quelque chose qui nous attend. Et ça rejoint même la table ronde d'avant. On n'a pas encore vu totalement ce qui nous attend. On sait que c'est pas Jojo, on sait que ça va mal se passer, encore une fois. Mais il y a cet enjeu d'ombre sur le monstre, et on sait pas encore trop ce que ça va être. Mais les monstres sont plus forts, je trouve, plus pertinents et plus percutants quand ils ont une double signification, je trouve, et ils sont hyper puissants dans ces cas-là.
Ou parfois, ouais, effectivement, quand on les voit pas du tout. Enfin, y a une tendance dans le jeu indé narratif d'horreur à faire beaucoup de pixel art. On a le cas, par exemple, d'Octavie Navarro. Enfin, je veux dire, on a le cas de Quentin qui est juste ici. Mais Octavie Navarro a fait un jeu. Enfin, il fait une série de jeux qui s'appelle Midnight Scenes. Donc, c'est vraiment des petits jeux qui sont en un peu moins d'une heure. Et il y en a un qui s'appelle Midnight Scenes, et le jeu s'appelle A Safe Place, qui est sorti récemment. Et A Safe Place, c'est un jeu intéressant parce qu'on est tout le temps dans la crainte d'y voir surgir un monstre. Enfin, au tout début, c'est vraiment un jeu qui joue aussi sur un peu notre ressenti en tant que joueur du confinement. On se retrouve avec un personnage qui est cloîtré dans sa chambre, qui n'en sort absolument pas, qui mange des nouilles instantanées et qui urine dans des bocaux. Donc on part du principe que personne ne s'infligerait ça de lui-même. Il a dû se passer quelque chose dehors. Il doit y avoir un monstre ou quelque chose qui l'empêche de sortir. Et ce qui est intéressant, et sans trop spoiler, c'est que le jeu va complètement subvertir nos attentes, va nous faire attendre ce monstre en permanence ou cette situation apocalyptique, pour qu'on se rende compte finalement que peut-être le problème vient du personnage qu'on incarne.
Justement, tu parles d'un personnage qui est cloîtré et qui vit cette idée d'enfermement de la pire des manières. Est-ce que dans l'imaginaire collectif, un jeu narratif n'a pas forcément des décors, a justement des décors exigus, plutôt en couloir? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, ou est-ce que vous voulez la nuancer? Et pour vous, qu'est-ce que ça apporte, cette idée d'enfermement, au-delà de l'évidence de l'enfermement spatial? Mais je pense par exemple à un jeu comme Detention, peut-être qu'on peut mettre le troisième visuel en régie, s'il vous plaît, qui est donc un jeu d'horreur taïwanais auquel vous avez peut-être joué tous les trois. Voilà. Et bon, j'ai pas pris la photo la plus funky, mais justement, ça démarre assez soft puisqu'on est surtout dans une salle de classe avec des couloirs et vraiment une idée de déplacement latéral comme dans les vieux point and click. Et d'ailleurs, il a l'architecture d'un point and click. Mais petit à petit, le décor s'ouvre vraiment avec des passages assez marquants. Julie, toi, je crois que tu es assez férue des questions d'astronomie et du rapport entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Comment tu perçois ces décors de jeu narratif, justement, sur les va-et-vient entre le côté exigu en apparence, mais progressivement ouvert par des éléments fantastiques?
Alors là, je vais trouver. Tu me donnes une bonne excuse pour parler d'un de mes jeux préférés, à savoir Alien Isolation, donc je vais me ruer dessus immédiatement. Alien Isolation, c'est un jeu que je trouve absolument. Ah, pardon, je parle excessivement vite, je suis désolée. Je vais essayer d'être un peu plus. Alien Isolation, donc, est un jeu sorti en 2015, bon, qui n'est pas un jeu narratif à proprement parler, donc désolée si je sors un petit peu du champ. Mais c'est vrai qu'il est intéressant parce que forcément, on pense Alien, on pense immédiatement espace, le vaste cosmos, et alors que Alien Isolation se déroule quasi intégralement dans une station spatiale, et encore plus précisément, très souvent dans un placard, parce que moi, en tout cas, j'ai passé mon temps dans un placard à y fuir le xénomorphe. Mais mine de rien, bah, l'espace, c'est un prétexte pour parler effectivement de l'infiniment grand, en tout cas de la frayeur qu'on peut ressentir. Enfin, c'est vraiment tout l'enjeu du cosmicisme, c'est quelle frayeur on peut ressentir face au vaste cosmos, parce qu'on se sent absolument minuscule face à tout ça. Et parle aussi, ouais, des conséquences psychologiques qu'ont une isolation, comme le peuvent ressentir les astronautes, quand bien même ils sont, dans un immense espace quelque part, quoi.
Moi, je veux bien revenir sur yes. Détention, qui est un jeu qui m'a beaucoup plu. Donc, comme tu le disais, c'est un jeu taïwanais, c'est un jeu politique. Donc c'est à la fois un jeu du genre de l'horreur, mais c'est un jeu qui parle de sujets politiques.
Sur la période de la Terreur blanche, quoi. Donc, la répression à Taïwan à ce moment-là par le gouvernement chinois et la traque qui s'ensuit, quoi. Voilà,
donc c'est un sujet compliqué, et c'est un sujet qui est peut-être aussi resté à l'écart de la grande histoire du XXe siècle. Tu vois comment, la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam. Il y a quelques éléments comme ça qui structurent notre perception de l'histoire, de la géopolitique et de ce qu'il y a pu avoir de sordide dans l'histoire, qui est souvent aussi associé à des images. On peut penser à la place Tiananmen, qui est aussi un élément comme ça assez saillant. Et du coup, cette histoire taïwanaise, on la connaît beaucoup moins. Donc là, vraiment, je parle de Blanc-Bec occidental qui découvre ce sujet avec son jeu parce qu'il avait des bonnes reviews sur Steam. Hein.
Tous pareil, je crois.
et voilà, et donc si vous n'y avez pas joué, on dit souvent, ça fait toujours un peu vendeur de soupe, mais allez-y, jouez. Je fais mon Patrick Helio. Ouais. Allez-y, jouez, c'est un bon jeu. Et en fait, c'est un jeu aussi donc, qui va parler de ça, et c'est un jeu qui va aussi explorer le folklore. Les mythologies, les représentations monstrueuses ou fantastiques, vraisemblablement taïwanaises, ou on va dire de l'Asie du Sud-Est. Et ça aussi, c'est génial, en fait. On parlait à la table ronde précédente de comment Resident Evil représente peut-être un goût, une esthétique de l'horreur, un registre de codes internationaux, avec le zombie, le badass américain et son gros Beretta. C'est vachement bien, en fait, qu'il y ait des jeux qui partent sur des chemins un petit peu différents et qui vont pouvoir enrichir notre univers, notre perception des référents, et comment un monstre complètement alambiqué, étrange, d'une culture dont on ignore tout, pour la plupart, ou en tout cas pour ma personne, peut soudain rejaillir dans le champ vidéoludique et puis faire peur à ce moment-là, quoi.
Ça, c'est... Pardon.
Pardon. Non, j'allais juste encenser encore une fois Detention. Et tu parlais de l'enfermement par rapport à Detention, etc. D'abord, on fuit dans le jeu. On fuit l'école, on s'en va. Mais en fait, on est bloqué. Donc, on commence par une ouverture vers le grand, enfin, l'extérieur. Et ensuite, on est obligé de revenir à l'école. Et c'est vrai que ça rentre aussi en cohésion avec Ouais, cette confrontation aussi, sphère publique, sphère privée, parce qu'on apprend aussi l'histoire des parents, de l'histoire familiale, et qui se superpose, qui se mélange complètement avec l'histoire politique, donc ultra publique du pays. Enfin, ce jeu est absolument merveilleux, j'adore ce jeu. Voilà, pardon, vas-y, juste.
Je vais aussi en rajouter une couche pour dire que j'adore Detention. Mais aussi, c'est intéressant ce que tu disais par rapport à les enjeux politiques taïwanais, parce qu'on voit vraiment dans l'horreur indé de plus en plus de récits extrêmement localisés, en tout cas qui reposent sur un folklore précis, parce que l'horreur est un genre qui connaît vraiment beaucoup, beaucoup de stéréotypes. Les joueurs d'horreur, c'est Octavio Navarro qu'il dit, en fait, sont difficilement impressionnables aujourd'hui. Et quelque part, en fait, reposer sur un imaginaire qu'on ne connaît pas. On parlait de Mundone tout à l'heure à la table ronde précédente. Et c'est vrai que le côté. C'est marrant parce que Mundone, à l'origine de Mundone, c'est juste Michel Ziegler, qui est le développeur du jeu, qui se promène dans ses Alpes suisses natales durant son enfance et qui, en fait, est dans un décor idyllique et se rend compte qu'il a un sentiment d'oppression. Enfin, il a l'impression de naviguer dans un univers tout entier et, en fait, se trouve plus tard face à des chapelles anciennes de plusieurs siècles qui lui donnent. Ouais, une sorte de sentiment un peu vertigineux, et il va reposer sur le folklore suisse pour donner corps à son histoire. Et donc nous, en tant que joueurs, c'est génial, on discute avec des chefs décapités, c'est des choses qu'on fait absolument jamais, parce que lui s'est inspiré de contes extrêmement obscurs pour nous français. Et dans le cas de Red Candle, qui ont fait Détention, et également, j'oublie l'autre, celui qui a été censuré sur Steam, Dévotion. Il y a cette volonté de raconter un récit qui est très universel, mais qui part d'un sentiment très profond et lié à un mal-être sociétal vraiment spécifique à leur pays, mais ils arrivent à en faire quelque chose qui nous parle également. Et là, il y a un futur jeu à venir hongkongais qui s'appelle Name of the Wheel, et qui ressemble pas à grand chose de ce que j'ai pu voir auparavant, parce que les références sont très hongkongaises. Pour le coup, c'est un groupe de développeurs qui s'appelle Zeitgeist Studio, très bien nommé d'ailleurs, vu ce qu'ils cherchent à communiquer, qui ont beaucoup manifesté en 2019, à Hong Kong, et qui ont gardé un souvenir assez traumatique de cette expérience. Ils ont gardé un souvenir traumatique de la répression policière qui avait lieu à cette époque, et ils en tirent un jeu qui va finalement pas du tout parler des manifestations à Hong Kong. Ça va parler du refus de se conformer, de la crainte, en fait, de sortir du lot, et voilà, c'est quelque chose absolument passionnant, et l'attente de se ultra-localiser peut donner que de bonnes choses, à mon sens.
Justement, tu dis qu'il est dur aujourd'hui d'impressionner un public de jeux horreur qui a l'habitude de croiser beaucoup de monstres et de décors qui lui paraissent de moins en moins singuliers. Et dans Detention, justement, les monstres et le décor, plus le jeu progresse et plus ils ont une importance et une lecture de plus en plus complexe. Et jusqu'à la fin, c'est très glauque, mais c'est très fort aussi. Sans révéler, je suis d'accord que Detention est vraiment un bon jeu. Donc justement, comment on fait quand on a une interactivité qui paraît bridée, sans choix, sans possibilité d'embranchement particulier, pour rendre crédible le décor et la peur qui infuse à travers le décor? Par exemple, Quentin, dans ton premier jeu, tu t'es intéressé plutôt au fond marin, il me semble, dans Narcosis, alors que dans Decarnation, le décor s'ouvre davantage. Comment tu l'as envisagé, ce décor, justement, pour qu'il soit très, très pertinent pour que la peur traverse l'écran?
Le jeu précédent, avant Decarnation, donc c'était Narcosis. Les deux ont quelque chose de très vertical, mais vertical plutôt en allant vers le bas. Donc ça a été un premier jeu, donc des Narcosis, ça se passe dans les fonds marins, on incarne un scaphandrier qui, à la suite d'un problème technique, se retrouve tout seul sur le plancher océanique. Donc ça joue énormément avec la thalassophobie, la peur de la mer, des fonds marins. Alors c'était un jeu justement qui jouait déjà sur le contraste entre une extrême ouverture des fonds marins, c'est-à-dire que t'es perdu sur le plancher océanique, dans quelle direction tu vas, tu vois. Il y a aucun référent, tu peux pas dire le soleil se couche par là, il y a un chemin, là-bas peut-être une chapelle, quelque chose. Donc ça jouait avec ça, une extrême ouverture mais qui est oppressante, et en même temps une extrême claustrophobie parce qu'on est coincé dans son scaphandre, un scaphandre donc rigide, et donc qui est très lourd, qui va vachement encombrer le personnage et le joueur ou la joueuse, et créer justement quelque chose où on sent un petit peu Ouais, ce côté un peu fragile, en fait, organique, un humain, tu vois, c'est un petit peu fragile, c'est un peu mou, c'est un peu moelleux comme ça, tu vois. Et il est coincé dans son énorme scaphandre très dur, avec à l'extérieur une pression donc littérale et abstraite extrême. Et voilà, c'est surtout de ça donc, que naissait ce sentiment d'angoisse, d'horreur. Dans Décarnation, voilà, donc il était déjà prévu que le jeu soit très huis clos, très dans des intérieurs, etc. Donc j'ai essayé quand même d'avoir certains moments en fait, de respiration. Il y a je crois que c'était le directeur créatif d'un illustre jeu d'horreur dont j'ai plus le nom qui expliquait justement comment à trop rester dans une tension permanente en fait le joueur ou la joueuse deviennent vaccinés en fait à cette tension et soudain ça cesse de faire peur. Dead Space, voilà. Donc donc dans Décarnation t'as un petit peu ça aussi, c'est à dire que même si le jeu est très largement sombre et difficile à plus d'un égard, il y a des moments de respiration, d'ouverture, souvent qui vont avoir lieu justement dans les rêves de l'héroïne, où soudain elle va pouvoir un petit peu se promener. Il y a une partie, un moment où t'es un petit peu au-dessus des nuages, mais des nuages un petit peu rosés, un petit peu poétiques comme ça, ce qui permet de se rassurer, se faire revenir dans un endroit un petit peu safe en fait, pour d'autant mieux retourner dans les séquences d'angoisse.
Tu évoques justement la claustrophobie et le temps relatif de pause, ou nécessaire en tout cas pour que la peur puisse s'infuser par palier et à travers le décor. Est-ce que ça rejoint un petit peu la même approche que pour la table ronde numéro 1, l'idée qu'un jeu narratif se doit d'avoir un cadre réduit pour faire peur? Qu'est-ce que vous pensez par exemple d'un jeu comme Outer Wilds? Comment vous le jugez? Est-ce que, parce que c'est, après tout, c'est un très grand espace, ça se définit comme un monde ouvert. Mais la boucle de gameplay qui fait qu'on meurt au bout de 20 minutes nous ramène toujours en arrière. Est-ce que vous avez des exemples de jeux narratifs qui vous ont vraiment mis mal à l'aise dans un espace très grand?
Moi, j'ai un exemple, c'est Moons of Madness, mais c'est de l'horreur à la Lovecraft, hein, c'est de l'horreur cosmique, mais qui se passe du coup sur Mars, qui a deux lunes au moins, je crois. Et il y a vraiment des espaces, je crois que c'était Patrick, enfin c'était à la première table ronde, des espaces très grands, très ouverts, mais vides, et dans l'espace. Enfin, ouais, des espaces dans l'espace, ok Camille, ok. Des espaces vraiment vides. C'est presque aussi terrifiant qu'un petit espace contraint et fermé, finalement, un espace où on est seul, où c'est vide. D'ailleurs, il y a souvent, dans les jeux au moins d'horreur, des moments d'introspection, où en fait l'écran devient noir et on a juste son personnage presque et on est dans un espace qui n'existe pas et qui est totalement vide, et c'est tout aussi terrifiant, je trouve, que des espaces restreints.
C'est pas un jeu narratif en l'occurrence, mais c'est un jeu qui m'a pris complètement à contre-pied, parce que je pensais vraiment innocemment y faire du craft, c'est Subnautica. Parce que pour le coup, Subnautica est un jeu absolument terrifiant, je trouve. Bah, déjà, c'est comme exactement comme Narcosis, il nous rappelle que 95% des profondeurs océaniques sont inexplorées et on n'a aucune idée des horreurs qui peuvent s'y trouver. Et quand on voit la gueule de celles qui ont déjà été découvertes, on n'a pas vraiment envie de savoir. Mais ça, pour le coup, je trouvais ça vraiment très intéressant, en fait, ce parti pris, parce que on repose sur des mécaniques vraiment de craft. C'est un jeu d'exploration et qui pourtant m'a donné beaucoup plus de frayeur que n'importe quel jeu d'horreur dans un espace restreint, quoi.
Puis moi, ça me fait penser à ce que tu disais sur le personnage tout seul dans cet espace noir. Quelquefois, donc, c'était un peu en mode black room, quelquefois c'est blanc, on pourrait appeler white room. Il y a un jeu qui joue beaucoup avec ça, c'est Yume Nikki.
Oui.
Voilà, donc petit jeu indé, obscur, coréen, je crois, à l'origine, peut-être japonais, peut-être japonais. Je crois que même, il y a toute une sorte de mystique autour du créateur de jeux vidéo du jeu, dont on n'a pas vraiment l'identité, il y a un truc comme ça. C'est un jeu, alors, à la narration très minimaliste, c'est très onirique, c'est quelque chose d'un petit peu un peu surréaliste, un petit peu psychédélique. Et il y a beaucoup de moments, justement, dans ce jeu où on ouvre une porte, on la traverse, et nous voilà sur un espace ouvert, il n'y a pas de mur. Il n'y a rien dans le cadre de notre écran qui nous laisse entendre qu'il faut plutôt aller vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Alors je ne sais pas si c'est forcément ultra angoissant, mais ça crée quand même cette petite appréhension de pourquoi le jeu là il me dit pas vers où je suis censé aller, et donc on y va avec à la fois bon, la curiosité d'aller chercher quelque chose, mais aussi le FOMO, la peur de manquer quelque chose en disant oh, je suis parti vers le nord, mais du coup si je partais en bas il y a peut-être un truc cool à voir, et voilà, ce sentiment est super, super intéressant. Il est très bien géré dans ce jeu où justement quelquefois des choses vont apparaître ou pas, et on n'est jamais sûr d'avoir eu le parcours idéal ou le parcours attendu, quoi.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce jeu de déstabilisation du joueur, de la joueuse. C'est les espaces restreints, les espaces ouverts, les espaces safe, les espaces dangereux. Tout à l'heure aussi, il y avait, pendant l'autre table ronde, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Enfin, il y a toujours cette idée de balancier qui passe d'un côté à de l'autre. Et on a à peine le temps à s'habituer d'être d'un côté que paf, ça va... Il va y avoir le contre-balancier dans l'autre sens, quoi. Et c'est ça qui fait un peu l'horreur aussi, je pense.
Justement, on parle de personnages, de décors, de dévoilement. Pour vous, qu'est-ce qui introduit un bon personnage de jeu d'horreur ? Une idée visuelle ou une idée d'écriture ?
Alors, je pense que ce soit... En fait, dans le jeu vidéo, quelquefois, le personnage, il n'est pas si important. C'est souvent, assez souvent, une coquille vide. Parce que comme ça, nous, on se projette dedans et on va vivre l'expérience. Voilà, ça rappelle aussi, par exemple, le premier BioShock qui joue avec ça sans expliquer comment. Maintenant, si on veut un personnage construit, donc un personnage dans la définition un petit peu plus classique, plus dramaturgique, narratologique du terme, je pense que horreur ou autre, c'est toujours les mêmes questions. En fait, c'est des questions éternelles de voilà, un personnage, ce qui le définit, c'est son désir, à la fois son vouloir conscient, son vouloir inconscient, et puis les obstacles qu'il va rencontrer face à ça et comment je pense qu'il y a un truc comme ça en fait entre ce que le personnage veut et ce que le monde lui donne. Le personnage est frustré que le monde ne lui donne pas ce qu'il veut, et du coup c'est qu'est-ce que le personnage va mettre en œuvre pour obtenir ce qu'il veut. Ça peut être très prosaïquement donc un personnage qui veut survivre et le monde est une horde de zombies qui essaye de le tuer, de le bouffer, mais ensuite on peut aller dans n'importe quel roman de la littérature du 19e siècle, française, russe, tout ce que tu veux, et on voit que cette définition là elle tient. Donc ouais, je pense qu'un personnage, il se définit surtout par ce qu'il veut et ce qu'il, quelquefois, veut sans le savoir.
Sur cette idée, enfin, justement, de définition du personnage, d'idée, d'écriture, de visuel, qu'est-ce qui vous marque le plus dans un jeu narratif, justement ? C'est l'angoisse qui naît du décor, pour creuser cette idée, ou un personnage auquel vous vous attachez émotionnellement et à qui il arrive évidemment des choses affreuses ?
Un mélange des deux, honnêtement, parce que je réfléchis aux derniers personnages qui m'ont vraiment marqué dans un jeu vidéo, et je pourrais pas dire par exemple que c'est l'aspect visuel qui m'a séduit chez eux, parce que là l'exemple que j'ai en tête c'est Loretta, donc un jeu point and click d'horreur sur en pixel art, mais vraiment très grossier, enfin vraiment il y a une sorte d'abstraction dans le visage du personnage qui fait qu'on, avec des scènes un petit peu plus détaillées par moment, mais moi ce qui m'a vachement intéressé avec ce personnage, c'est que c'est une narratrice non fiable, on s'en rend compte assez rapidement, et pourtant, oui, j'avais une forme d'attachement énorme par rapport à elle, parce qu'elle était dans des enjeux qui sont ceux d'une femme des années 40, que j'ai heureusement pas connue, mais qui font forcément écho à ce que peut ressentir une femme aujourd'hui. C'est l'impression d'être conditionnée à son foyer, d'être ultra dépendante de son mari. Et en l'occurrence, ce qui est passionnant avec elle, c'est qu'elle se décrit par ses intérêts. Elle commence par se décrire par son métier, qui est ornithologue, par vraiment ses actions, ses passions. Et c'est seulement quelques phrases après qu'en fait, on se rend compte que c'est une femme qui a tué son mari et qu'on n'a peut-être aucune raison de la croire, et y compris de croire ce qu'elle a dit auparavant. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument brillant. Et pour le coup, ça passait exclusivement par l'écriture dans ce cas de figure.
J'ai une réponse de gros cerveau, ça va saouler tout le monde va partir.
Non, au contraire.
Tu demandais juste avant justement si le personnage c'était plutôt le visuel ou l'écriture. Moi je dirais que c'est sa dimension poétique. Voilà, regarde, ils s'en vont. Parce que en fait on parlait un peu de tragédie tout à l'heure, je trouve qu'il y a d'analogie aussi, je trouve qu'il y a un côté très poétique dans le jeu vidéo d'horreur, et d'autant plus quand il est narratif et qui fait écho à des sentiments, à la société, etc., etc. Et vu que le personnage c'est l'élément qui va interagir avec ce monde-là, ce monde, cette poésie, en fait, si on considère que le jeu comme une poésie, c'est lui qui interagit avec et qui va faire avancer l'histoire plus que nous, puisqu'on a vu qu'on n'avait pas et tant de choix que ça à faire dans le jeu. C'est son poids, du coup, qui c'est son poids bah, poétique, j'ai pas d'autre mot, mais c'est son... C'est son enrobage comme ça qui va faire que on va suivre ce personnage parce que c'est ça aussi qui donne envie de continuer le jeu. Michael disait tout à l'heure, on veut démêler un mystère quand on joue à un jeu narratif d'horreur. Du coup, on veut suivre ce personnage et faire en sorte que ce personnage démêle le mystère. Tout à fait, je pense.
Je dois vous interrompre à nouveau. Désolé. Oh, c'est extrêmement rapide. Je suis navré. Il nous reste quelques minutes très rapides pour une ou deux éventuellement petites questions si elles sont courtes.
Oh waouh.
De ma part, je peux continuer ?
Non. Non, pour prendre des questions du public, je suis désolé, ça va hyper vite.
Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. Moi, j'avais deux questions. La première, je voulais savoir ce que Patrick Helio pensait de Detention.
Ah, on n'a pas le temps.
Non, il approuve, je le vois dans ses yeux.
On vous fera un podcast.
Non, plus sérieusement, en fait, j'avais une petite question. Les jeux narratifs, ça peut être un peu un genre qui, pas insurmontable, mais c'est quand même, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui a peur de rentrer dedans. Quel jeu, individuellement, vous conseilleriez le jeu narratif pour les nuls ? Comme première expérience.
3, 2...
Première expérience, j'en reviens au Midnight Sins d'Octavie Navarro, juste parce qu'il y a ce trick quand même, c'est que c'est des jeux snack, certains font 20 minutes, et donc du coup, il y a vraiment la possibilité de savoir très vite si c'est pour nous ou pas. Mais il a fait par exemple un récit, vraiment juste d'une femme qui tombe en panne en pleine nuit, ça dure 20 minutes, c'est absolument brillant, et je pense que voilà, c'est au moins pas trop d'engagement pour la personne qui s'aventure là-dedans.
Bon, puisqu'on ne dira pas Detention au bout de 3, moi je propose Mothman 1966, qui est littéralement, c'est développé par LCB Games, et leur but c'est de faire, ils ont appelé cette série de jeux, parce qu'il y en a plusieurs, des Pixel Pops, donc le but c'est vraiment de s'inspirer des romans, comment on dit déjà, les romans pulp
des années 50, quoi, ouais.
Des années 50, donc très courts, sériels, qui peuvent se prendre un au hasard, comme ça, au pif, c'est très rapide, et c'est très très narratif, donc vraiment si c'est une personne qui n'a jamais touché à un jeu vidéo de sa vie, c'est très écrit et narratif, avec des passages de gameplay quand même, pour s'immerger un petit peu. Et du coup, ouais, j'avais trouvé ça très bien à jouer en été, le soir, seul, dans la nuit. C'est parfait.
Et alors moi, ma suggestion, je pense que vous serez d'accord aussi avec, c'est What Remains of Edith Finch. Ouais. Donc Edith Finch, voilà, je vais pas m'étendre, mais voilà, c'est vraiment... ça a été testé, approuvé, c'est-à-dire des gens qui sont non-gamers, des potes de papa, tout ça, qui n'avaient jamais joué à un jeu vidéo de leur vie. Mais après, ils étaient en mode, mais c'est vachement bien, en fait, le jeu vidéo.
Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Oui.
Tout d'abord, merci beaucoup à vous. C'était une question qui était peut-être davantage pour toi, Quentin. C'était, en fait, je repensais à Décarnation cette année, il y a quelques mois, quand j'écrivais un papier sur Indica. Je ne sais pas si certains y ont joué, etc. Il y a une scène qui est formidable dans Indica, sans doute la meilleure scène du jeu, qui malheureusement arrive au début, quand on demande aux joueurs d'aller remplir un tonneau d'eau en faisant des allers-retours, etc. Au final, ça sert à rien, on marche, c'est long, etc. C'est absolument génial. C'est le grand coup de génie du jeu, je crois. Alors, ça m'a fait penser à Décarnation, parce que, et Kinapel en parlait très bien au tout début, il y a tous ces moments en fait de passivité du personnage, que ce soit devant le sculpteur, une espèce de Dorian Gray inversé, au musée, au cabaret, et puis évidemment les moments d'enfermement, et où moi je me souviens en jouant, je me disais mais je pourrais passer 4 heures à appuyer sur la touche A pour continuer à faire passer les dialogues. Et ce sont ces moments où on a presque l'impression que ce sont des jeux, donc Décarnation ou Indica, qui dans ces moments oublient d'être des jeux et où c'est là où ils sont les plus forts. Et du coup, voilà, pardon, c'était un peu long, mais comment toi, en tout cas, tu as dealé ce rapport entre ces moments-là, ces espèces vraiment de lignes de force, parce que j'ai cru comprendre, enfin, je crois que c'est ça le centre du jeu dans Décarnation, et ces moments de vraiment de gameplay qui vont être souvent des presque des mini-jeux, pas que, mais ou des petites énigmes, etc. Le passage de l'un à l'autre qui est pas toujours évident, qui est parfois difficile aussi dans ces genres de jeux, ça fait des changements de registre. Voilà, comment ça s'est passé pour toi ?
Donc ouais, comme tu le dis, Décarnation n'a pas un gameplay fondamental. C'est plus des mini-jeux, mais c'est complètement assumé. Et pour moi, c'est pas une faiblesse. Après, on peut avoir aimé ou pas, plus ou moins certains. Mais l'idée, c'était, en utilisant ces mini-jeux, de se dire, un petit peu comme on disait tout à l'heure, comment on peut représenter visuellement une sensation, un trauma. Là, c'est un petit peu pareil. C'est comment certaines situations du réel, concrètes ou quelquefois très abstraites, peuvent prendre forme dans un mini-jeu. Donc il y avait un petit peu ce travail-là. Et maintenant, l'alternance entre les deux, je pense que c'est vraiment une question de rythme. C'est-à-dire tu vois, j'ai regardé mon gros badge de texte, de dialogue, de scène, ma structure, en regardant, OK, à quel moment faut remettre un petit peu le joueur ou la joueuse en contrôle, à quel moment on peut un petit peu plus se poser. Ça a quelquefois dicté certains choix de dire, OK, là, il y a une interactivité, parce que, en fait, là, il y a trois scènes dialoguées qui sont sûrement très cool. Mais à un moment, ça devient un film interactif, justement plutôt pas interactif. Donc ça a été vraiment un jeu à la fois un jeu d'équilibrage, on va dire assez macro, et puis quelquefois assez micro, ou quelquefois c'est un petit peu gratos. Je peux donner comme exemple, pour les personnes qui ont joué au jeu, ça spoile rien. Il y a un moment, l'héroïne a une séance de gymnastique. Cette séquence-là, elle a vraiment pure fonction juste d'un moment de te faire un petit peu presser ton bouton. Entre deux, trois scènes de dialogue qui étaient nécessaires et dans lesquelles je ne voyais pas comment insérer vraiment une séquence de rêve avec un gameplay peut-être un petit peu plus prenant. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Vous les applaudir.
Merci.